Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood. Moderne est un podcast produit par le Marais Mood, le média du Marais et de Paris Centre. Je suis Katia Barillot, rédactrice en chef du Marais Mood. La mission de Moderne, vous raconter ce qui se passe dans le Marais en matière de mode, food, beauté, bien-être, déco, etc. avec un spécialiste qui va nous éclairer. Merci à notre sponsor, l'Agence des Enfants Rouges. Cette agence immobilière de proximité est incontournable avec ses 50 situées dans les quartiers de Bretagne, Place des Vosges, Oberkampf et Saint-Martin. Aujourd'hui dans Moderne, nous recevons Dimitri Van Sprang. Il est formateur et coach. Il nous invite dans son premier roman qui s'appelle « Un enfant de toi » paru chez Merci les livres, la maison d'édition de Cultura. Il nous invite, vous disais-je, à une plongée intime dans le désir de paternité et révèle les sentiments d'un homme qui ne parvient pas à devenir père. Et quand on sait qu'environ un couple sur 6 souffre d'infertilité, l'on comprend que ce mal frappe de plein fouet notre époque et pourquoi ce roman va à coup sûr intéresser bien des lecteurs. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Mais merveilleusement bien. Merci
bon
de me recevoir.
Alors vous êtes un Marésien vous ?
Oui, je suis un Parisien. Enfin, un Belge à Paris. On pourrait dire
non,
ça comme ça.
Mais plus exactement, vous êtes un Marésien. Vous vivez dans le Marais.
Ah, Marésien, et bien sûr. Marais depuis 20 ans maintenant.
Et alors, quelles sont les choses que vous aimez dans ce Marais où vous vivez ?
Bah écoutez, ce que j'aime dans le Marais, c'est la diversité déjà. Je trouve ça très sympa. En plus, je suis dans le haut du Marais qui est assez calme. Donc, il y a à la fois de la vie et en même temps, c'est relativement calme. Donc, je ne suis pas dans l'effervescence qu'il peut y avoir dans le bas du Marais. Je trouve que c'est un quartier merveilleusement beau, très, très beau. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui est plutôt joyeuse. Je trouve que les gens se parlent assez facilement les uns avec les autres. J'aime bien les bars qu'il y a. On fait des rencontres dans les bars et il y a quand même des bars très sympas dans le Marais. Et puis, je suis vraiment très sensible à l'esthétisme. Donc, je trouve que c'est un des plus beaux quartiers de Paris, esthétiquement parlant.
Ouais, l'architecture,
oui, vraiment, c'est un quartier qui n'a pas été totalement détruit par le haussmannien, heureusement d'ailleurs. Et donc, oui, c'est quelque chose. Je suis très attaché à ce quartier et je ne vois pas vivre ailleurs que dans ce quartier à Paris, pour être tout à fait honnête avec vous.
Alors, je vais vous parler, je vais vous poser une question un peu étrange, mais puisqu'on parle d'amour, de sexe, est-ce qu'il y a des jolies filles dans le quartier ?
Bah écoutez, oui. Enfin, j'ai envie de vous dire, déjà, dans Paris, il y a des jolies filles et dans le Marais, absolument. Oui, bien sûr. Et pas que pendant la Fashion Week.
Alors, 15% des couples ont des difficultés à procréer en France et en Europe, on peut dire, de manière générale. Oui. Pour 20% d'entre eux, l'origine est masculine et pour 40%, elle est mixte. Quelles sont les causes de l'infertilité masculine ? Comment le savoir ? Quelles solutions il existe ? En fait, qu'est-ce que l'infertilité masculine, vous qui êtes évidemment un peu au courant de la chose, à moins que vous vouliez que je vous aide avec l'OMS.
Mais écoutez, ça dépend. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que c'est l'infertilité, qu'est-ce
oui.
qui vient toucher ça? Bah, en tout cas, dans mes recherches, enfin, qui sont basées quand même sur mon expérience à la base, et je ne suis pas un scientifique, et l'OMS peut évidemment venir aller plus loin dans le détail, mais à ce que je sais, il y a pas mal de stress, il y a les perturbateurs endocriniens qui jouent quand même pas mal.
C'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on respire, la pollution
oui.
en fait. Hein.
Alors, on pourrait résumer que oui, notre mode de vie tue la vie. Hein, si on faisait un résumé, ce serait ça. Et la pollution, oui, donc une fois plus, ce serait la surconsommation de viande. Une des premières choses qu'on m'a dit.
Ah oui Mais pourtant, c'est hyper viril de manger de la viande.
Mais alors, ça qui est drôle, dans le livre, on en parle, mais il y a une grande différence entre le fait d'être infertile et viril. On peut être parfaitement viril, vaillant, vivant, totalement infertile.
Oui, mais c'est l'idée qu'on se fait en général.
Oui, d'ailleurs, c'est vraiment l'axe du livre. C'est que oui, c'est un homme qui est complètement surpris parce que tout va très bien, en fait, mais si ce n'est qu'il est totalement infertile. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'hommes. D'autant plus qu'en plus, ils ne s'y attendent pas du tout. Hein, vous venez de le dire, c'est 40% les deux. Donc, ça veut dire quand même qu'il est deux, hein, concrètement. Et souvent, on se retourne plutôt vers la femme. C'est vraiment c'est un imaginaire qui est assez étonnant. Oui, commun, ouais. Et ce serait important.
Bah, du temps de la royauté, du temps... Enfin, il y a 2-3 siècles, quand un couple avait des problèmes, on disait toujours, on se tournait toujours vers la femme parce qu'elle était problématique, elle n'engendrait pas.
Exactement. Absolument. Alors, et quand c'était un problème du côté de l'homme, si on prend Louis XVI, on regardait plutôt sur sa vie sexuelle, pas tellement sur sa capacité de fertilité en réalité. Alors que actuellement, on voit vraiment qu'en ce qui concerne les hommes, c'est quelque chose qui se dégrade. Donc ça s'empire en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un mode de vie qui amène à ce que, pour être concret, les spermes se dégradent en termes de qualité. Et c'est vrai que c'est important quand même que le mode de vie qu'on puisse adopter repermette à la vie de venir. Et en fait, même dans le marais où vous alliez, si vous regardez des personnes avec des poussettes, deux poussettes, c'est donc des jumeaux. Bon, évidemment, ils ne sont pas tous issus d'une FIV, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre qui sont clairement d'enfants de FIV. Hein, et ça touche beaucoup de gens qui, en plus, n'en parlent pas forcément.
Oui, il y a beaucoup de mystères. Hein. Les gens n'aiment pas trop parler de ça parce qu'effectivement, ça touche l'intime.
Oui, ça touche l'intime. Mais en fait, c'est un mal un peu honteux dans le sens où c'est pas vraiment une maladie. Donc, il n'y a pas ce regard sur quelqu'un qui est malade. Et en même temps, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Enfin, ça met le couple à l'épreuve quand même. Donc, moi, j'ai une expérience et du coup, j'ai aussi été regarder quelles étaient les expériences pour les autres. Et il y a beaucoup de forums là-dessus. On sent qu'il y a vraiment... c'est un combat, en fait. Hein. C'est un combat à mener à deux. L'infertilité.
Alors justement, pour vous, comment ça s'est déclaré? Parce que après, vous avez eu envie de d'écrire un roman et de nous raconter ça. Mais comment vous avez su, quand est-ce que vous avez su que vous étiez responsable, quand on aime, quand on désire envers et contre tout un enfant, et quand on aime quelqu'un et qu'on ne pourra pas lui donner un enfant? Quand est-ce qu'on l'apprend? Qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça a changé chez vous?
Alors, moi, c'était un cas particulier parce que j'ai eu un enfant 10 ans avant qui est venu tout de suite. Donc, évidemment, quand cet enfant...
Pas de problème.
Directement. Ouais. La pilule était arrêtée 2 mois après mon fils était là. Ouais. Et 10 ans plus tard, à peu près, un peu moins de 10 ans, quand on a cherché à avoir un enfant avec ma nouvelle compagne de l'époque, eh bien, ça ne marchait pas. Et évidemment que je n'ai jamais imaginé que c'était moi. Donc, on a dû faire des tests, elle comme moi, et dans les spermogrammes, on a constaté que mes spermes étaient en moins bon état qu'il était il y a quelques années. Par rapport au livre, il y a un changement, c'est juste que moi j'aurais pu en avoir un en insistant un peu avec des fives. Là, dans le livre, c'est quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à en avoir, et il y a des hommes qui sont dans des cas de figure où vraiment c'est très très compliqué d'en avoir, c'est vraiment très compliqué. Donc, alors du coup, par rapport à ce que ça provoque, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est tellement surprenant. D'abord, on s'attend pas à ce que ce soit l'homme. Ça, c'est quand même une idée que j'ai voulu chasser assez fortement. Je pense que c'est important. Et puis oui, ça pose la question de la virilité, comme on en parlait. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'envie de faire l'amour, l'envie d'avoir un enfant, tout est présent. Et
c'est facile.
C'est facile et on se dit que tout est là. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est un vrai questionnement. Et ça amène aussi une autre question qui est: qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans la normalité? On a évolué dans un milieu assez bourgeois, on va dire, dans lequel tout le monde se marie, a des enfants. Enfin, c'est une espèce de promesse logique. Et quand ça ne marche pas, tout d'un coup, tout ce qui semble logique ne l'est plus. Et je pense qu'on est dans une société où on nous... un peu consumériste. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Mais on a le sentiment que vient ce qu'on veut avoir.
Enfin, ouais, l'enfant est un dû. Oui,
est un dû, comme
oui.
Le reste, en fait. Hein. Mmh. Et puis quand ça marche pas, c'est même envisagé, même presque comme un achat. Il y a des gens qui prévoient quand ils vont avoir l'enfant, comment ça va se passer, comme s'ils achetaient une voiture, en fait.
Une fille, un garçon.
Voilà. Ils font même des régimes par rapport à ça.
Oui, c'est vrai.
Et donc, c'est vrai qu'on a une approche de la vie que je trouve un peu particulière. Ouais. Surtout quand ça, en fait, on se rend compte quand ça ne marche pas. Quand tout d'un coup, il y a un grain de sable, on se rend compte que peut-être qu'on ne s'est pas posé les questions de la bonne manière. Et c'est un peu l'objet du livre, d'ailleurs. Hein. Et beaucoup de couples, enfin, je reste encore en contact avec des forums et tout ça. Et c'est vraiment, les gens qui sont là-dedans, ils sont vraiment plongés dans un combat quotidien. Et il y a vraiment un désir incroyable par rapport à cet enfant. Il y a beaucoup d'amour aussi, et parfois beaucoup de remises en question. Et je trouve que c'est un sujet qui dit beaucoup de choses de notre société, en fait. Hein, de la nécessité de peut-être remettre des choses essentielles, de ne pas vouloir tout prévoir.
Moi, j'adore votre livre parce que je le trouve féministe. Je trouve que vous posez des questions comme certaines femmes se posent des questions quand elles échouent. Quand elles échouent, elles interrogent leurs amis, elles osent en parler, alors que les hommes sont beaucoup plus en retrait, ils osent moins en parler. Et je trouve que c'est un très joli geste que vous faites à l'égard des femmes qui sont souvent pointées du doigt dans ces cas-là, effectivement, dans l'imaginaire commun. Et en plus, vous parlez de vous, enfin de ce personnage qui est un peu vous. Hein,
oui, bien sûr.
Et c'est hyper intéressant de voir le cheminement de votre esprit. Je vous ai dit, hein, votre livre me fait penser à Jean-Philippe Toussaint, ces espèces de gens qui sont enfermés dans leur intérieur parfait, impeccable, et on sent qu'il y a quelque chose qui a déraillé.
Oui, bah, je pense que beaucoup d'entre nous ont une fêlure. Après, on peut nier la fêlure ou bien on peut la regarder en face et puis du coup la traverser. Et c'est un peu l'objectif. Là, il traverse cette fêlure. Et bon, je pense aussi qu'on a tous les hommes ont une part féminine en eux. Alors après, soit ils ouvrent la porte, et moi, je trouve ça intéressant de le faire en tout cas. Et puis après, là, qui préfère ne faire semblant qu'elle n'existe pas. Enfin, ma conviction, c'est qu'elle existe et que je trouve ça intéressant justement d'ouvrir cette part-là. Je trouve que ça fait grandir. Oui, enfin, la façon d'observer le couple, la façon d'observer la femme, la façon d'observer notre place dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai sujet en fait sur ce qu'est être un homme aujourd'hui. Je pense que c'est pas très compliqué. Hein. Il faut juste assumer sa part de féminité et tout va bien.
Alors, comment ça a été votre chemin ? Est-ce que ça a été un chemin de croix ? Est-ce que vous avez dû passer par ces fameux bilans préalables, stimulation hormonale, ponction des testicules, prélèvement de sperme, congélation des paillettes, insémination ? Il en faut 6 au maximum. Enfin, on ne peut pas aller au-delà de 6. Et pour la fécondation in vitro, la fameuse FIV, 4 tentatives seulement sont remboursées. Sinon, il faut partir en Espagne ou dans d'autres pays comme la Belgique, plus accueillants, plus soucieux de la santé mentale des parents qui veulent des enfants, enfin des futurs parents, des gens qui désirent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Ça a été quoi votre chemin ?
Alors du coup, il y a deux aspects. Sur la partie FIV, c'est de toute façon pas très recommandé, physiquement parlant, d'aller au-delà de 4-5 parce que c'est des boosts hormonaux pour les femmes qui potentiellement provoquent des cancers. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que ne pas aller trop loin, c'est peut-être pas forcément mal parce qu'à force d'appeler la vie, c'est peut-être la mort qui vient.
Oui, parce que ce sont des charges très importantes.
C'est des charges extrêmement importantes, donc très fortes. Et d'ailleurs, même quand l'homme, on va dire, est défaillant au niveau des spermes, j'entends, c'est quand même la femme qui va devoir prendre des hormones très fortes et qui sont pas très bons en fait hein, pour l'organisme. Donc avoir un limité, c'est quand même pas mal. Et dans mon cas de figure, j'ai pas été dans un cas trop extrême, mais oui, j'ai quand même donc subi évidemment les spermogrammes. Bon, subi, on se sent toujours un peu. C'est un moment. Enfin, dans le livre, je l'écris avec un peu d'humour parce que c'est drôle. Enfin, on se sent très bête en fait hein, dans ces moments-là. D'ailleurs, les lieux sont absolument glauques. Enfin bon, tout ça est assez rigolo. Et après, j'ai eu d'autres choses où effectivement, on passe avec une sonde. Là, on se sent vraiment
objetisé.
Objetisé, mais et je trouve que. Ça rappelle aussi, parce que c'est quelque chose que les femmes rencontrent quand même souvent, parce qu'elles vont
chez le gynécologue
très régulièrement, et donc elles sont mises à nu quand même régulièrement, ce que l'homme ne connaît absolument pas. Et quand on passe par ça, ben forcément on vit un peu les mêmes choses, pas de la même manière, mais en tout cas on le vit. Et c'est vrai que ça interroge justement une fois de plus. Et donc moi j'ai pas eu des prélèvements comme c'est décrit dans le livre ou qui sont vraiment des opérations lourdes. Donc j'ai pas vécu ça, mais je me suis pas mal renseigné pour voir ce que ça voulait dire, comment ça se passait, ce que ça peut dire pour un homme. Donc j'ai juste pris le début d'une histoire que j'ai connue, rencontrée, traversée, et j'ai tiré le fil pour voir ce qui se passe pour des hommes pour lesquels c'est beaucoup plus difficile et qui ont dû passer des épreuves que moi-même j'ai pas passé. Donc moi j'ai été jusqu'à l'épreuve, c'était encore soft quoi, pour moi, pour être tout à fait honnête.
Bon, alors on a bien compris, hein. Madame Bovary, c'est vous, donc ce héros, c'est vous. Comment est-ce que, sans tout nous raconter, comment est-ce qu'il s'en tire, lui, dans cette histoire ?
Eh bien, oui, en fait, donc, ce qui est un problème médical éveille un problème psychologique. Et donc, ça le ramène à son enfance. Je pense que beaucoup d'épreuves. Enfin, d'abord, quand on grandit ou quand on vieillit, ça dépend du terme qu'on emploie, on revient beaucoup à son enfance. Ça, c'est peut-être une conviction personnelle, mais je pense qu'on est souvent ramené à notre enfance. Et quand il y a une épreuve qui vient, ben, c'est accéléré. Donc, lui, il va se retrouver un peu plongé sur quelle enfance il a eu lui-même, d'où vient son désir d'enfant, est-ce qu'il vient, ça vient compenser quelque chose. Donc, il y a tout un espèce de cheminement intérieur qui l'amène à peut-être voir les choses différemment et qui potentiellement peut apporter une solution à un problème qui est 100% médical. Et si on réfléchit bien, il y a plein de couples qui physiquement ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ont été diagnostiqués comme ça, et quand on leur dit voilà, il n'y a aucune chance que vous ayez un enfant,
c'est fini.
Un mois après, paf, il y a un enfant qui arrive. Donc comme quoi il reste une part de mystère. Et bon, en fait, pour être très franc, ça c'est aussi un sujet central dans le livre, c'est que je pense qu'il faut laisser de la place au mystère. Donc d'un côté on prévoit tout, on veut avoir un enfant à un moment donné, tout est programmé, entendu, et je pense que ce qu'il faut vraiment remettre la vie au milieu, il y a une part de mystère, et c'est ce qui fait la magie de l'amour, la magie d'avoir un enfant. Et moi, je pense que c'est un des sujets sur lesquels c'est quand même pas mal de rester dans la partie magie, on va dire.
Alors, à partir de quel moment vous avez eu envie de raconter cette histoire, de nous alerter, de nous raconter ce que c'était que ce truc un peu bizarre de devoir se battre pour donner la vie alors que c'est censé se faire en une nuit ?
Ah, c'est un peu gênant. C'est arrivé le jour où je suis sorti de mon spermogramme. Je me suis dit, c'est un bâtiment totalement surréaliste à l'autre côté de Paris.
Très glauque, pas très beau.
Totalement glauque.
Avec les murs gris.
Oui, c'était un peu le cliché d'endroit dans lequel on voit de la médecine un peu à l'ancienne. Hein. Donc, oui, un ancien bâtiment un peu glauque avec des gens qui font ça toute la journée.
Où l'humain n'a pas beaucoup de part.
Non, c'est un truc un peu administratif. Et je suis sorti de là et je dis, ce que je viens de vivre est un peu surréaliste. J'ai envie de le raconter. Et c'est parti comme ça.
Et alors, comment ça s'est passé? Parce que bon, on l'a dit, hein, vous êtes formateur, vous avez eu plein de vies en une seule vie. Moi, j'adore ce genre de vie. Vous avez vous avez fait Sciences Po en Belgique, enfin l'équivalent, j'imagine.
Oui, c'est ça, absolument. Oui.
Après, vous êtes devenu comédien, vous avez monté une start-up à Londres, et là, vous avez décidé. Vous êtes coach et vous avez décidé là, tout d'un coup, d'écrire un livre. C'est un peu votre enfant d'ailleurs, c'est cet enfant que vous n'avez pas eu.
Oui, c'est mon deuxième enfant. C'est ça. Oui, c'est un peu mon enfant. Alors comment? C'est un besoin où ça fait un petit moment que je voulais écrire. J'ai fait mes études en néerlandais, donc c'est une particularité. Et donc j'ai toujours été un peu complexé par rapport à la langue française parce que j'ai été éduqué dans une autre langue que la langue française. Et je trouvais ça un défi intéressant pour moi de voir, de surmonter ça. Et c'est une fierté en fait d'avoir réussi à apprivoiser une langue qui est complexe. Le français est une langue complexe. Et donc j'avais besoin d'écrire cette histoire et j'avais envie de surmonter ça et de voir ce qui allait devenir. Et donc je suis très content d'avoir accouché d'une certaine manière de ce livre. Et ça me donne envie d'en écrire d'autres, évidemment. Mais donc c'est venu comme ça, le besoin. Et en fait, quand j'étais comédien, on m'a souvent dit que vouloir jouer la comédie, c'était une forme de besoin, presque un sacerdoce, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves à passer. Et moi, je n'avais pas abordé comme ça, j'avais pris ça comme un plaisir, et c'est un plaisir, hein, mais quand ça se corsait un peu, j'ai assez vite baissé les bras, alors qu'avec le livre, c'était l'opposé. C'est-à-dire que ça a été difficile depuis le début. Enfin, l'écriture, c'est super, mais aller jusqu'au bout du raisonnement, trouver un éditeur, encore maintenant, le faire connaître, essayer de le vendre, c'est plein d'épreuves, et ça ne fait que renforcer mon envie, en fait. Donc, je comprends mieux ce que ça veut dire avoir besoin de faire quelque chose dans un domaine artistique, par exemple.
Alors, justement, on est dans le Marais. Est-ce que vous êtes représenté dans les librairies du Marais? Est-ce que on tient aux écrivains du Marais, aux auteurs du Marais, quand on est libraire? Est-ce que vous avez des mises en valeur particulières?
Alors, il y en a une que j'ai soulignée qui est chez Comme un roman. Donc, vraiment, j'ai eu ils m'ont vraiment mis en avant et ils ont apprécié le livre beaucoup. Alors, je sais que c'est une librairie qui est assez exigeante dans Paris. Donc, j'étais très content que ça puisse se faire comme ça. Je suis tombé sur des gens absolument adorables qui ont voulu le mettre en avant parce qu'il y a aussi cet état d'esprit chez Comme un roman de mettre en avant le quartier, je trouve. Il y a vraiment il y a une envie de soutenir les gens du quartier. Dans les autres librairies où j'ai pu aller, c'est plus complexe, mais globalement, il faut comprendre aussi pour un libraire la difficulté que ça représente. Ils reçoivent des milliers d'ouvrages à chaque rentrée.
800 livres sortent.
Des centaines d'ouvrages. C'est quand même beaucoup. Donc, je suis un auteur inconnu dans une jeune maison d'édition. Donc, l'accueil a été le plus chaleureux chez Comme un roman, qui est mon libraire depuis que je suis dans le Marais aussi, il faut le dire. Et j'adore cet endroit. Donc, oui, je suis particulièrement bien soutenu chez eux.
Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire encore du Marais avant qu'on se quitte? Parce que là, on est au progrès. On est bien. On est un rue de Bretagne. C'est quand même génial, cette rue.
Au-delà, oui, enfin, moi, le Marais, c'est un espèce de cocon. C'est un endroit où je me ressource. Je trouve que c'est important de trouver un endroit où on peut se ressourcer. Et ça me paraît compliqué de quitter ce quartier parce que je trouve qu'une fois plus, il est très vivant. Rue de Bretagne, c'est évidemment une rue emblématique du Marais avec le marché des Enfants Rouges que je trouve...
Le plus vieux marché couvert de Paris.
Absolument, et qui est magique avec plein de gens que je connais, que je croise. Parce que, évidemment, les gens du quartier, on se connaît tous un peu. Donc, je connais bien Alain.
Oui, Alain Miam Miam.
Alain Miam Miam, qui est un mythe absolu.
Absolument. Même le Times lui a consacré
mais
un
mérité.
Article.
Mais oui, mais vous qui aimez les parcours particuliers, Alain a un parcours très particulier aussi. Donc ouais, c'est ça que j'aime. Je trouve que
prof de philo ou prof de français.
Il me semble que c'était, je crois que c'était prof de français, mais peut-être que je me trompe. Mais il a été psychologue. Après,
oui, voilà, c'est après, ça. J'avais tout ça, mais pas dans l'ordre.
Il a eu plusieurs vies, et c'est ça qui est génial dans ce quartier, c'est que on se rencontre souvent soit au Progrès, qui est quand même un bar mythique, hein, et puis il y a évidemment la Perle. Enfin, il y a, c'est ça que je trouve.
On adore
magique.
La Perle. Morgane, qui est actuellement au Marémoud, adore la Perle. Hein, maintenant, elle croyait qu'on devait aller à la Perle enregistrer ce podcast.
Ah, mais la Perle, ça a été longuement pour moi le point de démarrage de mes soirées et de la nuit. Évidemment, ça a été longtemps. Le tremplin, ça l'est encore, mais je pense malheureusement que je me rapproche des 49, donc du coup, le tremplin est encore là, mais il n'est pas aussi. Les ressorts ne sont pas les mêmes qu'avant. Mais j'aime, voilà, le quartier, c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on peut tout vivre à la fois, vivre une vie dans des chouettes restos et de ça, et puis si on veut vraiment vivre un autre rythme. Il y a le Saint-Gervais aussi que j'aime beaucoup.
Ouais, très sympa. Très sympa.
J'adore le Saint-Gervais.
Ouais, ses frères qui ont repris ce café lui donnent une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Et
pendant le confinement, c'était magique. On prenait des cafés dans le parc en face. Ils faisaient office de terrasse officieuse, on va dire, justement, pour le coup. Donc, oui, je suis très heureux dans le Marais. J'ai envie de dire, c'est un endroit qui m'inspire, inspirant dans le sens où écrire ici, c'est très. Pour se ressourcer, par exemple, c'est super. Moi, j'ai souvent aussi Place des Vosges. C'est quand je veux un truc un peu plus calme. Enfin bon, j'adore ce quartier, je pourrais parler pendant des heures. Mais...
Alors aujourd'hui dans Moderne, nous recevions Dimitri Van Sprang, un homme aux mille vies hein, qui a créé une start-up à Londres, on l'a dit, qui a été comédien formé au cours Florent, mais vraiment, vous n'arrêtez pas. Il nous invite dans son premier roman, Un enfant de toi, à une plongée intime dans le désir de paternité et révèle les sentiments, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, d'un homme qui ne parvient pas à devenir père, bien qu'il l'ait été en vrai.
Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour, pas pour le personnage du livre.
Ce roman très fort, Le Marais Mood l'a lu. On vous conseille de le lire parce que ce sujet, celui de l'infertilité, est un sujet qui est d'importance et de l'époque. Et ce livre est paru aux éditions MLL, c'est-à-dire merci les livres.
Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, à mettre un commentaire ou 5 étoiles, à suivre le Marais Mood sur Instagram, à découvrir les épisodes déjà en ligne, à parler de Moderne autour de vous. C'était Katia Barillo, fondatrice de Moderne, le podcast du site lemaraismood.fr avec le soutien de l'agence immobilière des Enfants Rouges.